L'Antarctique, donc, c'est quelque chose qui est à l'autre bout du monde et qui est connu, en tout cas suspecté depuis très longtemps dans les peuplades du monde, puisque les Grecs, déjà, donc il y a plus de 2000 ans, imaginaient qu'il y avait un continent exactement à l'autre bout du monde qui viendrait contrer en poids ceux de l'hémisphère nord pour permettre à la Terre d'effectuer sa rotation sur elle-même. Et c'est eux qui lui ont donné ce terme de ant, donc opposé, antarctique, opposé à l'Antarctique. À cette époque, ils imaginaient que ce continent serait peuplé d'indigènes avec des pieds diamétralement opposés, que ce continent serait bordé d'une mer bouillante, grouillante de monstres, etc., etc. Donc vraiment un monde un petit peu hostile et dangereux, et avec beaucoup de vie à l'intérieur. Il a fallu attendre le 18e, milieu du 18e, pour que James Cook, qui a découvert l'Australie, disent déjà que ce continent antarctique n'était pas parti d'un énorme continent, puisque l'Australie était bien individualisée, et que s'il existait ce continent antarctique, il était probablement tout seul, centré sur le pôle sud. C'est dans les années 1820 que, justement, ce continent a été découvert par trois expéditions successives qui se sont rassemblés en à peine une année, hein, par différents pays. Et donc, l'Antarctique a été aperçue depuis les diverses embarcations. Et ce qu'ont pu voir ces navigateurs, eh bien, donc, ce n'était pas du tout un monde chaud, grouillant, avec des indigènes agressifs et conflictuels. Au contraire, c'est quelque chose d'extrêmement violent en termes de météo et d'ambiance océanique. Mais par contre, visiblement, quelque chose de très blanc et probablement sans beaucoup de vie. Et puis, on en est resté là, et c'est dans les années 1900, hein, début du 20e, que les premiers pas ont été posés sur ce continent blanc. Alors, je vais revenir après à la suite de cette histoire de la découverte de l'Antarctique. Mais dans un premier temps, je vais tout de même vous présenter ce continent, c'est-à-dire ce qu'on sait maintenant de ce continent et en quoi est-ce qu'il est tout à fait particulier. Donc, cet exposé, je vais le présenter en trois parties. D'abord, qu'est-ce qu'on sait du continent antarctique actuellement, avec sa particularité? Ensuite, qu'est-ce qu'on sait de son histoire passée et ce qu'il nous raconte du passé de la Terre? Et enfin, en quoi est-ce qu'il va contribuer à l'évolution de nos jours futurs sous l'aspect du climat? Et notamment suite au réchauffement climatique. Alors, ce continent antarctique, donc, il est tout à fait particulier. Donc, il est centré sur un pôle, le pôle sud, et il est extrêmement grand. Il fait 14 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire 21 fois la France métropolitaine en termes de superficie, une fois et demie pratiquement l'Europe et pratiquement deux fois l'Australie. Donc quelque chose de très grand, un territoire qui est absolument immense. Alors si on veut le comparer à ce qui se passe dans l'hémisphère nord, ici vous avez donc l'Antarctique avec sa banquise que vous voyez apparaître en période estivale en grisé, et ici la banquise dans l'hémisphère nord. Sa situation tout à fait particulière vient du fait que c'est un continent qui est justement positionné sur le pôle. Alors que dans l'hémisphère nord, rien de tout ça. C'est même plutôt la situation complètement inverse. Dans l'hémisphère nord, nous avons un océan, l'océan Austral, pardon, l'océan Arctique, et autour de cet océan, on trouve des continents à partir d'environ 80 degrés de latitude nord. À l'inverse, dans l'hémisphère sud, en dessous de 80 degrés sud, eh bien, ce sont les océans. Et il n'y a quasiment que ça. Donc quelque chose de diamétralement opposé. Et on a donc deux situations qui se conjuguent, à la fois une situation polaire pour l'Antarctique, et du coup aussi, parce que tous ces océans l'entourent, contrairement à l'hémisphère nord, un isolement géographique. C'est un des rares continents qui va être isolé, et à cause de sa situation polaire, eh bien, tout le climat va être complètement singulier. Voici donc notre continent, continent blanc, donc entièrement recouvert de glace. Hein, donc il y a de la neige en superficie, mais c'est surtout de la glace, et on va voir de la glace qui est très vieille. On laisse apparaître ici, on voit apparaître des chaînes, des reliefs hein, qui percent par endroits cette calotte. Donc la calotte de glace polaire antarctique, qu'on appelle parfois aussi l'Inland 6 austral. Cette calotte est divisée en deux parties. La calotte de l'Est, Antarctique de l'Est, et puis une plus petite partie, l'Antarctique de l'Ouest. Et si vous voyez ici les lignes d'égal niveau, ça nous donne donc l'altitude de chaque calotte. Au plus haut point, on est à des altitudes de 4000 mètres, 3000 mètres, etc., etc. Donc on a un plateau de glace et en dessous de la roche, puisque c'est un continent. Alors là, il va falloir que je précise quelque chose. Les calottes polaires, ce sont donc des objets qui se déposent par les chutes neigeuses, par les précipitations météoriques, et de la glace, de la neige qui s'accumule et qui se transforme progressivement en glace. Ce processus ne peut se faire que s'il y a un socle rigide pour accueillir cette glace. Si la neige tombe sur l'océan, elle fond et rien ne s'accumule. Donc une calotte de glace, c'est comme un glacier, sauf que c'est quelque chose d'immense. Immense et très très épais. C'est très différent de la banquise qui, elle, c'est de la glace aussi, mais qui provient de l'eau de mer, qui gèle. Donc on a une extraction d'eau douce qui se trouve en surface de la mer. La grande différence aussi entre la banquise et une calotte, c'est qu'une banquise fait quelques mètres d'épaisseur, 4-5 mètres d'épaisseur, alors qu'une calotte, ben vous le voyez, c'est plusieurs milliers de mètres d'épaisseur. Donc un glacier absolument gigantesque. Alors la voici, cette glace présentée. Si on fait fondre toute la glace qui est actuellement présente sur le continent antarctique, on aurait une élévation des mers sur l'ensemble du globe, bien entendu, environ 60 mètres, 58 mètres plus particulièrement. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose de conséquent, sachant que les océans couvrent 70% de la surface du globe. Pour comparaison, le Groenland, si on le fait fondre, l'élévation des mers serait de 7 mètres. Enfin, si tous les glaciers sur Terre fondent, donc ces endroits de glace sur Terre qui sont entre les moyennes latitudes et puis également l'équateur, eh bien l'élévation serait de 0,4 mètres. Donc vous voyez que le poids de glace est absolument important et c'est lui qui va être la plus grande source d'eau douce sur la Terre. Alors, il faut faire attention, évidemment, quand on dit ça, la glace qui fond, il faut savoir que cette glace, elle fond, elle peut fondre, mais elle va fondre très lentement. Hein. Par exemple, entre la dernière période glaciaire, il y a 23 000 ans, et la période interglaciaire, donc un peu plus chaude, qui a eu lieu depuis 10 000 ans, dans laquelle on est, eh bien, il y a une hauteur de niveau marin de 120 mètres qui a été due à la fonte des calottes, ici dans l'hémisphère nord, et cela s'est produit en 8000 ans. D'accord ? Donc 120 mètres de remontée océanique en 8000 ans. Donc, logiquement, ce sont des objets qui fondent très lentement, qui ont une inertie thermique très importante. Alors, le climat de l'Antarctique, maintenant, donc une fois qu'on a posé un petit peu cet objet tout à fait particulier, le climat de l'Antarctique, il est également particulier. Et donc ça vient en grande partie de sa position singulière. Alors pour vous caractériser ce climat antarctique, il faut d'abord que je pose quelques bases sur la mécanique climatique actuelle sur Terre. Et en vous rappelant au départ que notre climat sur Terre, il est géré par l'insolation, par le chauffage du soleil. C'est ce qui donne l'énergie en surface terrestre, qui va permettre une certaine température, c'est-à-dire 15 degrés en moyenne, la convection, donc des vents en surface et en hauteur, et enfin un cycle de l'eau, donc des précipitations et de l'évaporation de l'eau de mer. Alors, sur Terre, cette énergie, malheureusement, elle est inégalement répartie à cause de la sphéricité de la Terre. Il y a plus d'insolation à l'équateur qu'au niveau des pôles, puisque les rayons du Soleil arrivent de façon incidente, rasante, et que du coup, ils se répartissent sur une plus grande surface. Donc, on a une perte d'énergie par mètre carré. Et c'est ce qui fait que sur Terre, on va avoir une zone où il va y avoir beaucoup d'énergie et une zone avec moins d'énergie. En réalité, tous les fluides, donc c'est-à-dire l'atmosphère et les océans, vont se mettre en mouvement pour transporter l'énergie excédentaire équatoriale vers les zones déficitaires polaires. Alors, pour transporter de l'énergie, eh bien donc, c'est facile. Quand on est un fluide, on part de l'endroit où le fluide est chaud, par exemple l'atmosphère est chaude, et puis on transporte la matière à l'endroit où c'est froid. On fait un petit mélange, on touille. Et donc, on met de la matière chaude à un endroit où il fait froid. Et puis, cette matière froide, on l'exporte à l'endroit où ça se réchauffe pour que, justement, le froid se soit réchauffé. Donc, dans chaque hémisphère, il y a, de façon sous-jacente, une grande boucle de convection dans l'atmosphère qui apporte l'énergie excédentaire équatoriale vers les zones déficitaires polaires. Sauf que notre Terre tourne sur elle-même. Et du coup, tous les mouvements qui sont faits, ils vont être déviés par une force de rotation qu'on appelle la force de Coriolis. Les mouvements sont déviés sur leur droite dans l'hémisphère nord et sur leur gauche dans l'hémisphère sud. Alors évidemment, il faut aller à une certaine vitesse, hein, parce que sinon on ne peut pas sentir cette force. Nous, quand on court ou même quand on roule, on ne peut pas sentir cette force. Par contre, un TGV sur les rails, il commence à sentir cette force de Coriolis. Et c'est pour ça que les rails sont toujours usés sur un même côté et que ça demande un entretien particulier. Et du coup, cette déviation du mouvement de l'un ou de l'autre côté, selon l'hémisphère, va faire que cette grande boucle de circulation va être divisée en trois parties sur Terre. Et c'est pour ça qu'on a donc trois cellules, la cellule de Hadley, la cellule de Ferrel et la cellule polaire, qui jouent ensemble pour, de la même façon, exporter la chaleur excédentaire vers les zones déficitaires polaires, mais donc de façon individualisée entre chacune d'elles. En carte, donc on va toujours des zones de basse pression vers les zones de haute pression, des zones de haute pression vers les zones de basse pression en termes d'air, mais en étant dévié sur la droite dans l'hémisphère nord ou sur la gauche dans l'hémisphère sud. Donc entre 0 et 30 degrés, c'est là qu'on trouve tous les alizés, qui sont des vents d'est, qui viennent de l'est et qui amènent la matière vers l'ouest. Entre 30 et 60 degrés de latitude thermique, on a des vents donc, qui vont des zones de haute pression vers les basses pressions et le mouvement est dévié sur sa droite, donc on a les vents d'ouest. Et puis enfin, entre 60 et 90 degrés, on retrouve des vents similaires aux alizés, mais beaucoup plus froids, qui sont à nouveau des vents d'est. Voilà, donc notre Terre obéit globalement à cette circulation assez bien comprise à l'heure actuelle. Évidemment, là-dessus, il faut surimposer l'inclinaison de la Terre qui varie entre l'été et l'hiver. Donc quand je dis 0 degré, c'est plus ou moins 23 degrés d'inclinaison entre l'été et l'hiver. C'est ce qui fait que nous, à 45 degrés, on va varier entre les zones de haute pression, donc on est plutôt dans l'anticyclone des Açores, plutôt l'été, et puis les zones vers 60 degrés ici, zone de basse pression, zone de tempête, zone de dépression, qui sont plutôt l'hiver, donc à l'heure actuelle. Voilà donc ces trois cellules en coupe par hémisphère. La cellule de Hadley, la cellule Ferrel et la cellule polaire. À nouveau remise ici, imbriquées les unes dans les autres. Alors, il faut savoir que la convection atmosphérique, elle s'arrête à une certaine altitude. C'est ce qu'on appelle la tropopause. c'est la limite de la couche convective de l'atmosphère, donc la troposphère. Et au-dessus, on a ce qu'on appelle la stratosphère. Mais dans la stratosphère, il n'y a pas de mouvements verticaux. Cette tropopause, elle descend en altitude depuis l'équateur vers les pôles, tout simplement parce que l'air est plus dilaté au niveau de l'équateur. Il y a plus d'insolation, il fait plus chaud, les molécules sont plus agitées. Et l'air est plus contracté au niveau des pôles parce qu'il fait plus froid. Donc les molécules sont moins agitées et plus condensées sur elles-mêmes. Alors, on va s'intéresser justement aux vents qui sont dans cette zone entre 30 et 60 degrés au niveau de l'Antarctique. Justement, regardons à quoi ressemblent les vents en carte, donc sur l'ensemble de la Terre, et puis regardons après les courants océaniques. Ici, je vais parler des courants océaniques superficiels qui sont donc générés par les vents. Les vents vont souffler en surface et vont donc, par frottement, induire un mouvement de l'eau. L'océan, la circulation superficielle, concerne les premières centaines de mètres de la masse océanique, voire le millier de mètres, sur environ, on va dire, 4 km de profondeur. Alors avant ça, regardons les cartes de vent atmosphériques. Ici, vous avez deux cartes, une qui est en été dans l'hémisphère nord et en hiver dans l'hémisphère nord, et qui indique avec différentes couleurs les vitesses des vents. Donc ici, ce sont des mètres par seconde, et en rouge, on a du 20 mètres par seconde, en vert, on a du 4 à 6 mètres par seconde. Vous ne voyez pas parce que c'est trop petit, mais il y a également des petites flèches qui indiquent la direction des vents. Alors, ces vents, eh bien, les voici, là ce sont les fameux vents d'ouest, ce sont donc cette zone-là, vers entre 30 et 60 degrés. Les petites flèches sont dirigées vers la droite, donc ce sont bien des vents qui viennent de l'ouest et qui vont vers l'ouest. Ce sont ceux qui nous ramènent les tempêtes qui viennent de l'Atlantique. Et vous voyez que cette zone de vent d'ouest, elle est plus forte, les vents sont plus forts en hiver dans l'hémisphère nord. Il y a leur équivalent dans l'hémisphère sud. Ce sont ces zones bleutées que j'ai mises. Les vents sont dans la même direction, ce sont des vents d'ouest. Ils sont à peu près entre 30 et 60 degrés de latitude. Par contre, qu'est-ce qui se passe au niveau des vitesses? Plus grande, plus petite? Plus grande, plus grande. On passe d'une couleur plutôt bleue, donc 10 mètres par seconde, à au moins le double, quasiment le 20 mètres par seconde. Donc vous voyez qu'ici, on est dans une zone avec des vents extrêmement forts. Et on a exactement la même chose que sous nos latitudes. Ces vents sont plus forts sur cette carte-là, la zone est plus développée, au moment où c'est l'hiver dans l'hémisphère sud. Ça, ce sont les vents d'ouest. Et ces vents d'ouest, ils sont extrêmement importants par rapport au climat de l'Antarctique parce qu'en fait, ils vont le ceinturer. Ils vont ceinturer ce continent et quelque part l'isoler du reste du monde. Alors, pour revenir à ces vitesses, pourquoi sont-elles beaucoup plus grandes que ce qui se passe dans l'hémisphère nord alors qu'on a la même circulation avec les trois cellules, les 0, 30, 60 degrés et 90 degrés? Pourquoi, d'après vous, ces vents d'ouest sont beaucoup plus forts? Voilà. Continents qui font quoi, alors? Les continents qui vont exercer une pression et donc une barrière, un rôle de barrière, effectivement, dans l'hémisphère nord. Alors que dans l'hémisphère sud, vous avez vu tout à l'heure, en dessous de 66 degrés sud, il n'y a que de l'océan. Donc les vents ne sont pas contraints, il n'y a pas de force de frottement qui va les ralentir et ils vont donc tourner en boucle autour du globe et entourer complètement ce continent. C'est le seul endroit où il y a des vents qui entourent complètement un continent. Il n'y en a pas d'équivalent nulle part sur Terre. Dans l'Australie, elle est soumise à ces vents d'ouest également, donc il n'y a pas quelque chose qui tourne autour. Le seul endroit, c'est en Antarctique. Donc les voici, ces vents d'ouest. Ils tournent autour de l'Antarctique sans arrêt et ils s'emboîtent les uns dans les autres. Et évidemment, du coup, ils vont générer des courants superficiels marins. Ils vont pousser l'eau et l'eau, elle va se laisser conduire par ses vents et elle va tourner autour de l'Antarctique. Donc ça va générer ce qu'on appelle le courant antarctique circumpolaire. Donc c'est un courant océanique très fort qui, de la même façon que l'atmosphère, va isoler ce continent du reste du monde. Alors évidemment, ce n'est pas complètement hermétique. Mais quelque part, ces deux acteurs, atmosphériques et océaniques, vont jouer comme des barrières est-ouest contre le transfert de chaleur de l'équateur vers le pôle sud. On a un transfert équateur-pôle, et là, on a une barrière est-ouest sur toute la circonférence de l'Antarctique. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe sur ce continent en termes de chaleur, d'après vous ? La chaleur, elle est minimale. C'est l'endroit où il y a le minimum de chaleur au niveau de la Terre. Donc, par la situation polaire, les rayonnements qui arrivent de façon rasante, mais en plus à cause de ces mouvements atmosphériques et océaniques. Alors, évidemment, on n'a pas du tout, encore, j'insiste là-dessus, la même situation dans l'hémisphère nord. Encore une fois, c'est même tout à fait l'opposé. Puisque ici, on a cette ceinture autour de l'Antarctique, barrière océanique et atmosphérique, alors que là, non seulement on n'a pas de continent, mais les continents, ils sont justement en dessous de 80 degrés nord, et ils sont massifs, ils sont quasiment partout, 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 sauf une petite ouverture dans l'Atlantique nord. Donc les continents, ils vont briser les vitesses atmosphériques des vents, et puis, de toute façon, il ne peut pas y avoir du coup de circulation océanique puisque c'est de la terre, c'est du socle minéral. Voilà, donc l'ensemble des vents plus des courants marins en fait un continent tout à fait particulier à cause de cet isolement qu'on appelle l'isolement thermique. Isolement géographique et maintenant isolement thermique. Pour continuer sur les climats, donc, parlons d'autres choses qui caractérisent cet endroit, mais là, pas que. C'est les saisons. Donc, on a la même chose, évidemment, en hémisphère nord. Mais il faut savoir qu'au-delà du cercle polaire, on peut avoir des moments où on ne voit pas du tout le soleil. Ça, c'est dû à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport à la perpendiculaire au plan dans lequel la Terre fait sa trajectoire autour du soleil. Et vous voyez que le soleil étant ici, eh bien, quand on est incliné de cette façon-là, le pôle sud va être totalement éclairé à 100%. Et il n'y a plus du tout de nuit. C'est le moment du solstice d'été dans l'hémisphère sud. Alors que quand on est dans cette situation-là, eh bien, le pôle sud n'est pas du tout éclairé. Et on est au moment du solstice d'hiver dans l'hémisphère sud, qui a lieu le 21 juin. Et le 21 décembre pour l'été. Alors, on passe d'une situation progressive au niveau du cercle polaire. Alors, le cercle polaire, c'est 90 degrés moins 23. 23 étant l'angle d'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Donc, à partir de ces 90 moins 23, c'est-à-dire 67, on a un moment de jour total ou de nuit totale dans l'année. Et puis, progressivement, on va jusqu'au pôle. Et au niveau du pôle, eh bien, on va avoir jusqu'à 6 mois de nuit totale, donc de mars par exemple à septembre ici, hein, dans l'hémisphère sud, et c'est l'hiver austral. D'accord. Donc ça, c'est une autre particularité évidemment que nous on ne peut pas tellement apprécier puisque on n'a pas du tout cette situation. On est à 45 degrés de latitude. Donc ça fait quand même un univers vraiment particulier cet Antarctique. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau des températures, justement ? Parce que tout ça, ça va faire un petit bouquet de choses particulières. Alors, regardons d'abord les moyennes. Les moyennes, donc moyenne annuelle, la température annuelle en Antarctique. Et pour ça, donc, on va aller sur une station qui est au niveau du plateau de la calotte, hein, donc vraiment perché au-dessus. c'est la station russe de Vostok. Donc une station des plus documentées au monde qui soit, parce que ça a été une des premières à être créée en Antarctique, et je reviendrai là-dessus. On enregistre en moyenne moins 55 degrés à Vostok. Sur la côte, des températures un petit peu plus clémentes. Maintenant, si on regarde les extrêmes, eh ben, c'est là qu'on a les extrêmes les plus froids sur Terre jamais enregistrés, sans surprise. Au niveau des enregistrements par thermomètre, c'est-à-dire vraiment avec un instrument physique sur place, in situ, on a enregistré. Alors, qu'est-ce que vous savez de ça, vous ? Quelle est la température la plus froide jamais enregistrée sur Terre ? Moins 70 ? Moins 97 ? Ouais, ouais, bon, bah d'accord, ok, c'est à peu près entre les deux, en effet. Donc, en termes de mesure en température, c'est moins 89 degrés, qui a été mesuré donc en plein hiver, en juillet 1983, par les Russes qui hivernaient, parce que c'était un peu les seuls à faire ça à l'époque. Ils hivernaient dans cet univers tout à fait impitoyable, et ils ont mesuré donc moins 89 degrés. C'est pas rien. Et ces gens travaillaient dans des conditions pareilles. Plus récemment, on a enregistré un nouveau record qui est de moins 93 degrés Celsius. Mais là, donc, c'est des mesures satellitales. Donc, ce n'est pas tout à fait l'équivalent en termes de technique. Mais c'est quand même des bonnes valeurs à comparer l'une à l'autre. Alors, encore une fois, au pôle Nord, on ne trouve pas des températures pareilles. Au pôle Sud, on a 30 degrés, moins 30 degrés en été. Vous voyez, donc par rapport à la moyenne, hein, on varie de 15 degrés. Au pôle Nord, en été, on a moins 5. En hiver, au pôle Sud même, hein, donc un endroit qui n'est pas très loin de la côte, on a environ moins 55 degrés, alors qu'au pôle Nord, on a moins 35. Donc, on a quelque chose qui est très différent au pôle Nord du pôle Sud. Et ça, ça vient du fait qu'on a un océan vraiment centré sur le pôle. Et cet océan, c'est un isolant thermique très fort. C'est-à-dire qu'en fait, il va emmagasiner de la chaleur, quelque part, et du coup, tempérer les extrêmes. Alors, voilà donc une carte des températures. Donc, en été, dans l'hémisphère sud, et vous voyez ici des lignes d'égal niveau, des isothermes, donc qui nous donnent moins 30, moins 25, moins 10 sur la côte. Et en hiver, on a moins 55, moins 60, moins 55, etc., etc. La station de Vostok est à peu près ici. En moyenne sur Terre, du coup, si on replace ce continent par rapport aux températures globales sur Terre, on a des grosses variations à cause justement de la sphéricité de la Terre, mais qui sont atténuées à cause de la circulation des fluides, donc atmosphère plus les océans. Malgré tout, on trouve qu'au niveau de l'équateur, on a en moyenne 27 degrés Celsius. Au niveau du pôle Nord, moins 15 degrés. Et retenons à peu près le chiffre de moins 50, moins 55 degrés dans la région polaire sud. Globalement, sur Terre, on a plus 15 degrés. Voilà. Mais ceci nous fait voir que l'Antarctique est quand même quelque chose d'assez spécial qui a tendance à refroidir les températures sur Terre. Alors, on peut le revoir aussi d'une autre manière. Maintenant, à partir donc d'un deuxième paramètre climatique, on a vu les températures, on peut voir maintenant les précipitations. Qu'est-ce qui se passe en termes de tombées météoriques en Antarctique ? Donc ici, vous avez un relevé qui va de l'équateur pôle Nord, pôle Sud, en fonction de l'été dans l'hémisphère Nord, pardon, de l'hiver dans l'hémisphère Nord, alors de l'été dans l'hémisphère Sud, on va donc se positionner en Antarctique, ou de l'hiver dans l'hémisphère Sud. Et vous voyez que autant on a des variations assez importantes en fonction des latitudes, le maximum de précipitations étant sans surprise au niveau de l'équateur. C'est la zone où il fait le plus chaud et en plus il y a des océans. Donc il y a beaucoup d'eau évaporée qui condense dans l'atmosphère et qui retombe quasiment à cet endroit-là. Par contre, au niveau du pôle sud, alors nord également, hein, eh bien, donc ça correspond au petit schéma que j'avais fait, que je vous ai montré sur la circulation atmosphérique. On est dans une zone de haute pression et l'air qui arrive à cet endroit-là, il s'est complètement déchargé de son humidité vers les 60 degrés, c'est-à-dire la zone des tempêtes, et du coup, il arrive extrêmement sec en Antarctique. Et si on regarde de façon plus précise, on est plus sec en Antarctique, beaucoup plus sec en Antarctique qu'au Groenland. En moyenne, on a environ 20 cm en équivalent en eau liquide. Alors 400 mm sur les régions côtières. Et en dessous de 25 cm par an, on appelle ça un désert. Donc, vous voyez qu'on est dans des zones extrêmement sèches. C'est un désert froid, hein, ni plus ni moins, où l'air est très sec, très très sec. Voilà. Donc, on a évidemment des paysages sublimes, parce que le ciel est dégagé, il y a très peu de nuages, très peu de précipitations, et donc on peut voir des très belles choses le jour comme la nuit, avec donc ici des ciels extrêmement dégagés, avec la Voie lactée, et puis d'autres phénomènes atmosphériques. Alors, effectivement, si on compare avec ce qui se passe en moyenne sur Terre au niveau du cycle de l'eau, donc on a trois bandes de précipitations sur Terre, l'équateur et puis dans l'hémisphère nord et sud, les 60 degrés, entrecoupés par des zones désertiques, 30 degrés et 90 degrés dans les deux hémisphères. Et nous, donc, on est dans une zone où on est largement désertique. Voilà. En moyenne, les précipitations sont de 1 mètre par an sur l'ensemble de la surface terrestre. Donc c'est parmi un des climats les plus secs de la planète, l'Antarctique. Le taux de l'accumulation de la neige, il est très faible. Par comparaison, si on regarde la calotte groenlandaise, en moyenne, on a une accumulation qui est d'environ 20 cm par an et c'est de 2 cm par an en Antarctique, donc c'est 10 fois plus faible, parce que justement c'est plus sec qu'au Groenland. Plus sec et puis aussi parce qu'il fait plus froid. Et quand il fait plus froid, il y a moins de précipitations. La neige ne se forme pas. Alors ça a deux conséquences. La première, c'est que quand on va regarder les glaces et commencer à s'intéresser à ce qu'elles peuvent nous révéler du passé, eh bien, les enregistrements glaciaires vont être moins bons parce que il y aura une année qui va s'accumuler en 2 cm, alors qu'au Groenland, ça va être sur 20 cm. Donc, on pourra lire beaucoup plus précisément au Groenland. En revanche, puisque les deux calottes ont à peu près la même épaisseur, eh bien, on va pouvoir remonter dans le temps beaucoup plus loin en Antarctique qu'au Groenland. Et en effet, au Groenland, on remonte sur 130 000 ans en arrière environ. Alors qu'en Antarctique, 800 000 ans, et même, on espère pouvoir remonter beaucoup plus loin dans le temps, puisque actuellement, il y a donc un programme européen qui est en place, 2019-2025, pour aller forer la glace dans un endroit particulier où on espère remonter à 1,5 million d'années en arrière. Vous comprenez l'idée, c'est qu'il y a de la glace qui tombe, et puis elle s'accumule, il y a de l'eau de glace qui se ramène par-dessus, mais cette glace qui s'enfonce dans la calotte, elle est âgée. Donc c'est comme ça qu'on remonte dans le temps, c'est de la même façon qu'avec des sédiments hein, qui se superposent les uns avec les autres. Donc c'est sur Terre l'endroit où on va avoir les plus vieilles archives de glace. Et ces archives de glace, elles ont des informations absolument sublimes à nous livrer sur le climat passé de la Terre. Alors, quelques mots sur les vents catabatiques. Parce que j'ai dit qu'il faisait toujours beau et qu'on voilà, c'était un climat de haute pression, donc plutôt dégagé, du beau temps. C'est pas tout le temps le cas quand même. C'est pas tout le temps le cas parce que en plus d'une température froide, d'un climat extrêmement sec, parfois il y a des vents très très forts et des vents qu'on ne peut que trouver sur une calotte polaire. Ce sont des vents qui sont dus au fait que tout simplement il y a de l'air très froid et quand un fluide est froid, eh bien, il est dense, il est lourd. Donc, il va s'écouler et se laisser sombrer le long de la pente de la calotte polaire. Donc, sur des milliers de kilomètres, il va prendre de l'accélération et terminer avec une très, très grande vitesse sur la côte. Alors, quand je dis très, très grande vitesse, hein, donc, vous voyez, entre 3000 kilomètres, pratiquement 3000... D'accord. Donc, il faut savoir que la hauteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, la hauteur de la calotte de glace, elle est d'environ 3-4 000 mètres. Et donc, on va jusqu'au niveau marin. Voilà, donc ces vents catabatiques, ils sont représentés sur cette carte. Donc, ils vont souffler dans différents sens, toujours en obéissant plus ou moins à cette grande circulation de vent d'ouest. Et ils vont toujours rejoindre la côte. Et on a donc des extrêmes. Au pôle sud, on a pu enregistrer des vents, donc pôle sud, on est à peu près ici, de 100 km/h, donc en moyenne. Et à la station Dumont-d'Urville, donc c'est la station française côtière, on a eu des vents en 1972 de 327 km/h. Donc vous voyez qu'on rejoint le cadre des ouragans. Hein, c'est, les ouragans, c'est au-dessus de. Je ne sais plus combien. C'est au-dessus de peut-être 200 km/h, quelque chose comme ça. Et puis, on a plusieurs catégories. Et 300, je pense que c'est au-delà de la catégorie 5. Ou en tout cas, c'est pas loin de la catégorie 5. Donc, on a vraiment des vents tout à fait particuliers, extrêmement froids. Et qui, donc, forment un espèce de paysage un peu. Sombre, lugubre, parce qu'évidemment, ça prend toute l'atmosphère et le soleil passe difficilement à travers. Voilà, donc ces vents catabatiques aussi, une particularité de l'Antarctique. Alors, si vous le voulez bien, je vais passer là-dessus parce que je vois le temps qui passe et je voudrais vous parler, on pourra revenir là-dessus si vous avez peut-être des questions, sur la couche d'ozone, parce que c'est aussi une particularité de l'Antarctique. C'est là que la couche d'ozone a été détruite par des gaz formés par nos activités humaines. Mais continuons à nous intéresser au climat, et on va essayer de plonger dans le passé maintenant, sur cette calotte polaire. Alors, l'Antarctique, elle nous fait vivre quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la glace sur Terre. Et ça, voyez-vous, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il y a peu de moments sur Terre, depuis sa longue vie, depuis 4,6 milliards d'années, où il y a de la glace. Regardez ce petit schéma qui retrace donc la vie de la Terre depuis 4,6 milliards d'années. Jusqu'à l'actuel. Alors attention, cette échelle n'est pas linéaire. On fait un zoom de plus en plus grand sur les temps récents. Ça s'appelle une échelle logarithmique. Et c'est pour ça qu'ici, j'ai mis une des années en milliards d'années et ici en millions d'années. Et puis donc ici, un zoom sur la partie la plus récente. À partir de témoins géologiques particuliers, on sait que sur Terre, il y a eu 5 moments où il y a eu des calottes de glace. Pas plus. Alors, peut-être des interrogations sur les premiers milliards d'années. On ne sait pas trop. Mais globalement, lorsqu'on cumule les temps où il y aurait eu de la glace sur Terre, on arrive à 15% du temps. C'est-à-dire que globalement, la Terre, elle est essentiellement en climat chaud, dépourvu de glace. Il n'y a pas de glace. On ne connaît pas. Mais certaines configurations font que la glace apparaît. Et notamment, il y a 35 millions d'années, nous avons basculé dans une ère glaciaire. C'est l'ère glaciaire actuelle dans laquelle nous sommes toujours, puisqu'il y a des glaces sur Terre. C'est ça le marqueur d'une ère, c'est la présence de glace sur Terre. Et petite note, au sein de cette ère glaciaire, on voit apparaître des oscillations, donc des climats plus froids, moins froids, donc période glaciaire, période interglaciaire, depuis à peu près 3 millions d'années. Alors, l'Antarctique nous fait basculer, en réalité, vraiment dans ce schéma-là, parce que c'est elle qui va s'englacer en premier sur Terre depuis 35 millions d'années. Ici, voici donc une reconstitution de la variation de la température à la surface du globe. Et vous voyez que depuis 50 millions d'années, la surface terrestre a perdu en moyenne 12 degrés. 12 degrés moyens sur Terre. Avec une première diminution forte entre 50 et 35 millions d'années en arrière, et une deuxième diminution forte entre 15 et l'actuel. Alors on sait que, à partir de témoins géologiques, il y a eu des moments où justement la glace est apparue dans ce cadre-là. Et la première fois que la glace est apparue, c'est il y a 35 millions d'années. Elle n'est pas apparue n'importe où, elle n'est pas apparue proche du Groenland. Elle est apparue au large, enfin elle est apparue sur l'Antarctique, parce qu'au large de l'Antarctique, on voit ces petits dépôts dans les sédiments marins qu'on appelle des ice rafted debris. Donc c'est des débris de socle océanique qui ont été amenés par les glaciers. Les glaciers, en raclant le socle, puis en se libérant dans l'océan, vont déposer à certaines distances du continent ces petits grains, parfois des blocs, hein, mais qui ont vraiment une physionomie tout à fait particulière et qu'on n'identifie que par ce phénomène de raclement par une calotte glaciaire sur un socle. Donc la calotte polaire est apparue en Antarctique il y a 35 millions d'années. Et puis la calotte donc, à l'ouest, sur le grand plateau de l'Est, et puis à l'ouest, il y a 15 millions d'années. Et ceci donc, fait suite à un refroidissement progressif depuis environ 50 millions d'années. Voilà. Donc vous voyez la calotte antarctique qui commence à se créer. Donc, elle nous fait basculer dans cette ère glaciaire actuelle en commençant à se former, peut-être de façon non pérenne, hein, probablement, puis en s'agrandissant de plus en plus, puis la calotte antarctique de l'ouest, et enfin, ici, les premières calottes dans l'hémisphère nord, donc calottes du Groenland, mais aussi d'énormes calottes sur l'Eurasie et l'Amérique du Nord. Alors, globalement, ce refroidissement de 12 degrés, quelques mots là-dessus. Donc, au départ, quelque chose qui devient en lien avec la surélection de l'Himalaya. La collision Inde-Asie a eu lieu il y a 50 millions d'années. Et quand on crée une chaîne de montagnes très grande, très haute, les précipitations sont en équilibre avec le CO2 de l'atmosphère. Et tout ce qui est déblayé par érosion chimique va s'enfouir dans les sédiments profonds. Et de ce fait, s'il y a beaucoup de matériel qui est altéré chimiquement par les ruissellements de la pluie sur le relief, ça fait diminuer la teneur en CO2 atmosphérique. Ce CO2 est enfoui sous forme de petits fossiles en carbonate de calcium dans le fond des océans. Donc une grande orogenèse fait diminuer en gros l'effet de serre qui est responsable d'une augmentation de température. Donc moins il y a de gaz à effet de serre, plus il fait froid sur Terre. Et on pense que donc c'est ça qui est à l'origine. Peut-être également une diminution de l'expansion océanique qui dégaze du CO2. Donc là, pareil, une diminution du CO2 atmosphérique. Et puis enfin, une évolution de la géographie. En effet, il y a 35 millions d'années, on voit un englacement de l'Antarctique. Et ça vient, alors je reviens là-dessus, ça vient du passage en position polaire de l'Antarctique. Regardez, il y a 150 millions d'années, voilà ce gros Gondwana, donc cette espèce de méga continent où tout est collé. et notamment l'Inde est collée à l'Australie, qui est collée à l'Antarctique, aux moyennes et hautes latitudes de l'hémisphère sud. Puis l'Inde se détache, l'Australie et l'Antarctique évoluent toujours ensemble, il y a moins 90 millions d'années, mais l'Antarctique gagne progressivement sa position polaire. Enfin, l'Australie commence progressivement à se détacher de l'Antarctique il y a 65 millions d'années, et au final, on a donc cette configuration avec donc des vents qui tournent extrêmement fort et la position polaire plus l'isolement fait qu'on a donc le continent le plus froid de la planète. Ce continent le plus froid de la planète, il va s'englacer. Et quand on a du blanc qui apparaît à la surface de la Terre, eh bien ce blanc, vous savez certainement, il réfléchit beaucoup les rayonnements solaires. Donc on a moins d'énergie qui arrive sur l'ensemble de la Terre. Et ça va faire baisser le budget énergétique terrestre. Donc, on commence à faire dégringoler les températures. Et puis, ça va continuer à s'emballer. Il y a 3 millions d'années, c'est autour de l'hémisphère nord que ça s'englace. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on est dans une configuration où tout est pris en glace ici, les calottes, elles auraient envie de continuer à se développer s'il fait de plus en plus froid. Sauf que c'est des océans. Donc, quelles sont les zones où il fait froid et où il y a des continents ? C'est dans l'hémisphère nord maintenant que ça se passe. Et au début, ce n'était pas le cas parce qu'il ne faisait pas suffisamment froid. Mais là, il fait de plus en plus froid. Donc, c'est comme si les calottes vont progresser vers les basses latitudes. Mais là, elles ne peuvent plus progresser dans l'hémisphère sud. C'est dans l'hémisphère nord que ça va se jouer. Et on va passer à des situations où, effectivement, on a donc des calottes qui se développent sur le Groenland et puis sur l'Amérique du Nord et l'Eurasie. Alors ça, c'est le cadre des oscillations climatiques du Quaternaire, donc il y a 3 millions d'années. Et l'Antarctique va nous révéler des choses absolument fantastiques. Encore une fois, ces glaces antarctiques, elles nous permettent d'enregistrer en continu une histoire et avec une grande précision. Les deux paramètres que l'on arrive à reconstituer, c'est d'une part la température en Antarctique, qu'on va relier à la température globale, et puis la teneur en CO2 atmosphérique avec d'autres gaz à effet de serre. Et ça, c'est vraiment absolument précieux pour la compréhension passée du climat, mais aussi actuelle. Alors, quelques mots pour replacer quand même ces découvertes que je vais énommer. Et avant cela, une petite cartographie des différentes stations scientifiques. Alors, on en était resté à la fin du 19e, où on avait donc découvert ce continent antarctique. Les premiers à aller poser le drapeau sur le pôle sud, ça a été en 1911 exactement. Bon, ça a été une épopée un petit peu macabre parce que les Anglais et les Suédois se faisaient une concurrence. Et l'équipe anglaise a laissé. Les cinq membres de l'équipe anglaise sont décédés après avoir découvert le drapeau norvégien sur le pôle et commencé leur retrait vers la côte. Une tempête les a pris et ils sont morts à 20 km du lieu de ravitaillement prévu pour leur retour. Donc on est dans les années 1910. Bon, beaucoup d'événements politiques, etc., sur Terre, ensuite. Et on bascule dans l'année 1957, où c'est la première année de géophysique internationale et où il y a de grands programmes qui sont lancés à travers du monde pour aller explorer les pôles. Donc au Groenland, qui est donc une station que les Danois investissent massivement, et puis en Antarctique. Alors en Antarctique, les premières stations à être construites, ici c'est la base de Dumont-d'Urville, base française, et je ne me rappelle plus les noms, Mini, je crois, pour la Russie, enfin l'URSS, pardon, et enfin donc une autre station qui est américaine. D'accord ? Donc les stations côtières. Et puis, les dizaines d'années après, ça va être des excursions pour aller justement sur le plateau de la Calotte et commencer à regarder ce qui se passe à l'intérieur de ces glaces. Les premiers à vraiment investir la station scientifique la plus rentable, c'est Vostok. Donc, ce sont les Soviétiques. Et les Soviétiques y mettent de très gros moyens, parce que là, on est à plusieurs milliers de kilomètres des côtes. Hein. Et vous avez vu les froids qui peuvent régner hein, pendant l'été qui ne dure même pas 2 mois, et surtout l'hiver. Ils décident quand même d'hiverner à cette époque pour donc aller forer la glace. Alors, ce sont des péripéties parce que, évidemment, on ne connaît pas comment il faut forer la glace. Au départ, on a des carottiers mécaniques donc qui épluchent la glace. Ensuite, on a des carottiers thermiques donc qui font fondre la glace sur le pourtour, puis on recueille le cœur. Et puis, à une certaine profondeur, ces carottiers ne marchent plus. Surtout, à une certaine profondeur, 900 mètres, le trou qui est formé par le carottier, il se referme à cause de la pression de la glace. Donc, on est obligé de trouver un système qui est de mettre un fluide antigel dans le trou et trouver un carottier qui marche avec. Alors, ce fluide, vous savez ce que c'est ? C'est du kérosène. Bon, on étudie le climat, mais on met du kérosène, bon, voilà. Et donc, on développe des carottiers particuliers qui permettent de descendre avec ce fluide antigel sans contaminer, bien entendu, les échantillons qu'on va ramener. Alors, les Français sont actifs, mais ils n'ont pas du tout les moyens qu'ont les Américains à la station de Bird et puis en Antarctique de l'Ouest, ici, les Américains, et les Russes en plein milieu de la calotte de l'Est. Néanmoins, il y a quand même une coopération internationale qui se tisse plus ou moins, en tout cas entre les Français et les Russes. Donc il y a une année, dans les années 1970, où les scientifiques français, danois, américains, etc., viennent rendre une visite éclair à la base de Vostok, où l'on sait qu'il y a vraiment des prouesses techniques d'extraction de la glace. Alors les voici, ces prouesses techniques. Hein. Vous voyez qu'on descend à plusieurs milliers de mètres au fond de la calotte. Alors, des fois, le carottier est coincé. Donc, il faut énormément de doigté et de méticulosité pour arriver à surpasser la situation. On replonge, on continue, on essaye. Puis bon, il y a des moments où vraiment c'est terminé. Donc ici, en 1980, en 1984, etc., etc. Et encore donc jusqu'à récemment, dans les années 2012, le dernier carottage qui a été fait à Vostok. Durant un vol, justement, dans les années 75... Donc un vol express, un petit peu décidé comme ça sur le moment. Donc américains, russes et surtout les Français, les Danois se rencontrent. Et cette époque, donc la glaciologie française est menée par Grenoble, le laboratoire de Grenoble, et notamment par Claude Lorius. Et ces Russes qui accueillent donc ces gens venus en été sur le continent antarctique et qui ont hiverné, ces Russes, hein, ils sont extrêmement contents de voir du monde. Et donc, ils les reçoivent et ils montrent un petit peu ce qu'ils ont fait depuis des années, etc. Et donc, ils voient ces précieuses carottes dans le fond d'une espèce de cave creusée, donc des carottes qui sont stockées dans un lieu à moins 55 degrés. Et alors là, tout le monde ouvre ses yeux parce que vraiment, ils ont réalisé une prouesse technique absolument incroyable en travaillant donc dans le froid, dans ces odeurs de kérosène tout le temps, aider un petit peu de vodka, parce que la vodka, ça fait passer, et puis ça permet de gérer le mal d'altitude aussi. Ils sont quand même à plus de 3000 mètres d'altitude. Et il se trouve... Et là, c'est un petit peu un petit moment de l'histoire particulier qu'il n'y a pas beaucoup d'isotopistes sur Terre qui savent analyser quelques données particulières des glaces qu'on appelle les isotopes de l'oxygène ou de l'hydrogène. Claude Lorius en est un. Et il y en a un autre, c'est un Danois qui est très réputé. Mais ce Danois va passer son temps à aller voir tout de suite ces échantillons et essayer de collecter ce qui pourrait dans ce trésor qu'ont les Russes à cette époque-là. Et Claude Lorius, évidemment, est très intéressé, mais il partage la joie et l'amicalité avec les Russes, etc. Et notamment, il leur raconte que durant sa thèse, en prenant un verre de vodka, il a mis un petit glaçon de carottes de glace. Et il a vu des bulles s'échapper, particulièrement de cette glace, en se disant « Mais on pourrait peut-être analyser ces bulles, elles ont peut-être un message à nous donner. » Bref, ils discutent, ils sont joviaux et il y a quelque chose qui se passe entre eux. Et ça va être vraiment décisif parce que quelques années après, mauvaise nouvelle pour les Soviétiques, le seul isotopiste qu'ils ont, qui est marié avec une Espagnole, passe à l'Ouest. Il part de l'URSS. Vous savez ce que ça veut dire, passer à l'Ouest ? Mais il part de l'URSS. Donc, ils n'ont plus d'isotopiste en URSS, puisque et ils ont ce précieux butin sous le coude. Donc, eh bien, certains vont imaginer des solutions pour imaginer une collaboration possible entre les Russes et puis des isotopistes. Et là, donc, évidemment, eh bien, le choix en termes de compétences est compliqué parce que donc il y a les Danois, il y a les Français. Alors les Américains, ils viennent pas trop parce que on est en pleine guerre froide quand même, hein, donc on mélange pas trop les choses. Mais enfin, ils regardent ça de loin. Et au final, ça va être les Français qui vont emmener le contrat pour analyser en isotope ces carottes de glace. Et c'est un petit peu ce qui va consacrer quand même les équipes françaises parce que maintenant, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de renommée par rapport à nos connaissances climatiques. Vous voyez Jean Jouzel, qui est un rapporteur du GIEC. Vous voyez Valérie Masson-Delmotte. Tout ça, c'est de la lignée de Lorius. Et c'est ce qui fait donc qu'on a un certain rayonnement international sur cette thématique. Alors, également, en pleine guerre froide, donc au moment où Reagan construit sa guerre des étoiles contre l'Empire du Mal, menée par Brejnev, eh bien, à l'autre bout du monde, il se passe quelque chose de particulier. C'est que, certes, les Russes ont un butin dans leur cave à moins 55 degrés. Les Français ont leurs compétences isotopistes en France, mais la logistique n'est pas là. Or, les maîtres en la matière, qui est-ce ? Eh bien, ce sont les Américains. Et là, il va se passer quelque chose d'assez exceptionnel, c'est qu'il va y avoir une collaboration entre les États-Unis, l'URSS et la France pour justement ramener des échantillons de ces précieuses carottes de glace jusqu'en France pour permettre leur analyse. Une chaîne de 15 000 km de froid, d'abord en avion américain, ensuite en bateau russe, et enfin, une fois sur le continent, en camion frigorifique français jusqu'à Grenoble. Donc c'est une belle aventure, et regardons ce que ça a donné. Alors justement, les isotopes de la glace. Donc isotope, c'est le fait qu'un élément, comme l'oxygène, va être soit un peu plus lourd, soit un peu plus léger. Et donc on va extraire un signal de cette différence de masse pour ces paramètres particuliers d'un élément. Il se trouve que on a un signal, donc ici pour le deutérium, donc la molécule hydrogène, ici pour l'oxygène, on a un signal tout à fait particulier de chaque isotope en fonction de la température. Donc quand on voit ça, on se dit qu'on a vraiment quelque chose de très précieux qui est ce qu'on va appeler le thermomètre isotopique. C'est-à-dire qu'en mesurant le delta O18, c'est ainsi qu'on le nomme, de la glace, on va avoir une température. Voilà. Donc imaginez, OK, la température actuelle, on la connaît, mais celle qui a eu lieu il y a 23 000 ans, on ne sait pas quelle était cette température. Et puis avant, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc là, Lorius, puisque c'est un des premiers qui l'a développé, a trouvé un moyen absolument fantastique pour remonter dans le temps en termes de température. Et voilà ce qu'il observe. Alors ici, c'est le présent. Donc ça, c'est un enregistrement plus récent, hein, 2007. Et voilà donc les variations du deutérium dans la glace en fonction du temps. Et ici, on remonte à 600 000 ans d'années en arrière. À partir de ces valeurs, ces variations, on reporte donc sur le thermomètre isotopique et on trouve une variation d'environ 10 degrés. Ça, c'est entre la période chaude, donc interglaciaire actuelle, et la période froide, il y a 23 000 ans. 10 degrés de variation en Antarctique entre deux périodes, deux extrêmes de périodes chaudes ou moins chaudes. Alors les voici hein, en illustration, ces périodes chaudes et moins chaudes. Période interglaciaire, celle que l'on connaît à l'heure actuelle, le Groenland étant glacé, mais pas les autres continents. Et il y a 23 000 ans, donc un paysage tout à fait différent, avec des énormes calottes de glace qui recouvrent le nord de l'Eurasie et surtout le nord de l'Amérique du Nord jusqu'aux latitudes de New York. L'Antarctique, pendant ce temps, reste à peu près la même calotte. Or, il se trouve que la variation de température en Antarctique, c'est à peu près le double de la variation de la température moyenne globale. Donc, à partir de la variation de température en Antarctique, on arrive à remonter à la variation de température moyenne globale. Et voyez-vous, sur les derniers 600 000 ans, eh bien, on trouve que cette variation entre une période glaciaire et une période interglaciaire est de 5 degrés moyens. Alors ça, quand même, ça fait un peu... ça fait un petit choc. 5 degrés moyens, et voyez quand même les transformations de notre Terre avec 5 degrés moyens. Et puis là, ça, c'est que les calottes, hein, mais il y a un niveau marin à moins de 120 mètres. Hein. Donc, au niveau de la flore et de la faune, quelque chose de rien à voir. Ici, on est à Lyon, on est dans le pergélisol. C'est de la toundra. Hein, il y a des mammouths et quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Premier résultat. Bon, il y a une cinquantaine d'oscillations depuis 3 millions d'années. Et puis maintenant, ces fameuses bulles d'air dans la vodka. Alors en réalité, c'est vrai que c'est un whisky. Bon. Les fameuses bulles d'air dans la glace. Qu'est-ce qui se passe ? Quand on forme un glacier, donc ici un super glacier puisque c'est une calotte, la neige se dépose. Donc là, on a beaucoup, beaucoup d'air. Et puis, elle s'entasse par le poids de la neige qui lui tombe dessus. Donc progressivement, elle se métamorphose, il y a un métamorphisme qui fait qu'elle va se condenser, se contracter. Et à un certain moment, l'air qui est entre les grains va être coupé de l'air actuel. Autant là, il y a encore de la diffusion de l'air avec l'air qui est au-dessus, hein, au-dessus de la calotte. Autant à une certaine profondeur, il n'y a plus de connexion entre l'air emprisonné et puis l'air actuel. Alors, juste une petite note, par contre, elle, la glace, elle est plus vieille. Hein. Elle n'a pas le même âge que l'air enfermé, parce que elle a mis du temps à faire ce transit en profondeur. Cette profondeur de fermeture, d'emprisonnement de l'air, se fait à peu près vers une centaine de mètres. Ce n'est pas tout à fait pareil en Antarctique et au Groenland. Mais en tout cas, du coup, promesse extrêmement riche, on va avoir accès à de l'air intact, mais de l'air passé, de l'air fossile. Vous voyez ? Imaginez 100 mètres, on en a 2000, 3000, 3500 mètres sous les pieds. Donc on va pouvoir remonter dans le temps de façon incroyable. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va analyser la composition de cet air. Alors le voilà, hein ? Le voilà, cet air... emprisonné. Vous voyez ici des petites bulles, donc on est relativement en surface de la calotte. On est des petites bulles au niveau des joints de grains, de la glace. Et puis, donc ici en lumière polarisée, si on descend un peu plus profondément, on a des cristaux qui sont plus grands et des bulles d'air qui sont plus petites, emprisonnées dans la glace. Donc, quand Lorius revient avec ses échantillons, eh bien, il va les broyer et récupérer tout simplement l'air qu'il y a dans ces petits flacons. Alors, qu'est-ce qu'il observe ? Donc, voici la température antarctique. D'abord, il a Donc on est dans les années, alors bon, je vais vous montrer la suite après, mais les premiers résultats, on est dans les années 85 à peu près. Donc il a un cycle glaciaire. Il remonte à, ici c'est 100 000 ans, il remonte à 140 000 ans en arrière. Donc il voit que la température antarctique, donc globale, varie. Donc 5 degrés global. Il fait un petit peu plus chaud au dernier interglaciaire, mais 2 degrés supplémentaires, pas plus que l'actuel. Et conjointement à ça, il voit, alors les gaz à effet de serre, en particulier le CO2, diminuent quand on est en période glaciaire. Et puis, ils augmentent en période interglaciaire, quand il fait plus chaud. Bon, donc il y a un lien entre le climat et les gaz à effet de serre, la teneur des gaz à effet de serre. La mécanique qui sous-tend ça, c'est le fait que quand on est en période froide, les océans accumulent plus de gaz dissous. Tous les fluides vont avoir plus de gaz dissous quand ils sont froids. C'est pour ça qu'on met les bouteilles de champagne au froid. C'est pour avoir des petites bulles fines et agréables à déguster. Au contraire, quand il fait chaud, les gaz deviennent moins dissous, donc ils sont plus sous forme gazeuse. Ils vont plus dans l'atmosphère. Mais enfin, donc, un premier lien entre les deux. Et l'autre chose très importante, c'est qu'il voit que la variation de CO2, on passe de 280 ppmv à 180. Alors, c'est quand même un petit peu surprenant parce que il pensait qu'on était au moins dans des variations de l'ordre de 280, enfin plutôt, voire plutôt haute, même peut-être en période glaciaire. Et ça, ça le questionne énormément. Enfin, quand je dis le, c'est évidemment toute une communauté scientifique derrière. Pourquoi ? Parce que en même temps, alors un peu plus en avant, dans les années 1960, il y a eu donc des premières mesures qui ont été faites dans l'atmosphère, donc l'atmosphère actuelle. Quelle est la teneur en CO2 de l'atmosphère actuelle ? Donc pour ça, une station a été mise en place, une station américaine, dans un endroit le plus reculé du monde qui soit, loin de toute influence anthropique. C'est la station de Mauna Loa à Hawaï. Et les premières mesures montrent que nous avons des teneurs en CO2 dans l'atmosphère qui sont de 316 ppmv. Ppmv, c'est une unité de mesure du gaz. Donc vous voyez que déjà ça, on est un petit peu surpris. Parce qu'on était à 280 ppmv en interglaciaire et puis 180 en glaciaire. Donc bien en dessous de ce qu'on a à l'heure actuelle. Bien, non seulement ça, mais on est dans les années 80 et on sait que depuis un certain temps, l'observatoire a mesuré que cette teneur augmentait. Or, on sait que le CO2, c'est un gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'il a tendance à réchauffer la surface de la Terre. Les mesures vont se continuer. On va remonter dans le temps beaucoup plus loin, comme je vous ai dit, jusqu'à 800 000 ans d'années en arrière. Est-ce qu'on a eu des teneurs comparables à ce que l'on connaît à l'heure actuelle, c'est-à-dire 300, 350, peut-être plus en ppmv ? La réponse est non. Nous n'avons pas eu de concentration similaire dans le passé, sur plus de 800 000 ans. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui se passe quand on a un gaz qui réchauffe la surface de la Terre et qui augmente énormément ? La voilà, cette augmentation, hein, à Mauna Loa. Elle est claire et nette. Elle est même un peu redoutable, parce qu'on a l'impression que la courbe se redresse. Donc, elle fait un petit peu peur. Et c'est une tendance qui ne cesse actuellement d'aller vers une augmentation continue. Voilà, donc ces fameux résultats en Antarctique sur la composition de l'atmosphère fossile nous ont montré que nous n'avions jamais dépassé 280 ppmv en gaz CO2 depuis 800 000 ans, qu'on était même la plupart du temps en période froide à 180 ppmv. Et maintenant, si on ajoute les valeurs, donc ça c'est la barre de variation, et si on ajoute les valeurs actuelles de CO2, eh bien vous voyez, on est bien au-delà du spectre. En 2014, donc, on est passé à plus de 400 ppmv dans l'atmosphère. Donc ça pose énormément de questions, bien entendu, par rapport au réchauffement que maintenant on mesure avec de plus en plus de précision et qui est d'environ 1 degré moyen sur la surface de la Terre. Je vous rappelle, entre une période glaciaire et une période interglaciaire, c'était 5 degrés moyens. Donc 1 degré moyen par rapport à l'époque pré-industrielle, en 250 ans, c'est beaucoup. Alors, ces enregistrements pour le CO2, on les retrouve. Donc, c'est le deuxième gaz à effet de serre naturel après la vapeur d'eau, le CO2. Il y en a d'autres, des gaz à effet de serre naturels. Et donc, ils jouent de façon naturelle, on le voit bien ici dans le passé. Et il y en a d'autres, comme par exemple le méthane, ici en bleu. Le méthane, il a exactement la même variation, donc en fonction des périodes glaciaires interglaciaires. Le protoxyde d'azote également. Et ici, vous avez aussi les points actuels pour le méthane. Donc, on est complètement en dehors des dernières variations naturelles de ce gaz, comme pour le CO2. Dernière petite précision, l'espèce Homo sapiens est apparue il y a à peu près 300 000 ans. Voilà. Donc, elle n'a jamais connu d'autre cadre que celui des alternances glaciaires-interglaciaires, avec les 5 degrés de variation entre les deux. Alors, maintenant, si on regarde le climat actuel et futur en Antarctique, donc voilà les variations de température que l'on mesure en moyenne sur le globe. On passe de, on va dire, moins 0,6 au début du XXe siècle à plus 0,4. Hein. Donc, on est à peu près à 1 degré moyen d'augmentation de la température globale. Alors, si on se recentre maintenant, on ne va pas parler du changement climatique global, mais si on se recentre sur l'Antarctique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on mesure un réchauffement en Antarctique qui est au moins 1,5 fois plus élevé que celui sur le globe, voire peut-être 2. Donc ça reprend le doublement enregistré par le thermomètre isotopique lors des variations glaciaires interglaciaires. Voilà. Et l'endroit qui est le plus touché par le réchauffement, c'est la partie ouest de la calotte antarctique. À certains endroits de l'est, au contraire, on semble mesurer des petits refroidissements. Mais la calotte antarctique de l'ouest, elle, est très soumise en surface à un refroidissement. Un réchauffement, pardon, merci. Bien, vous êtes réveillés, c'est bien. Et c'est ce réchauffement qui va l'emporter globalement sur l'ensemble de ce continent. Alors, globalement, ça a un impact. On voit bien que les glaces disparaissent progressivement. Ici, donc, ce sont des bilans en masse en Antarctique de l'Ouest, en Antarctique de l'Est. Voilà. Bon, là, par comparaison, c'est le Groenland. Et on voit que, globalement, le bilan en masse est inférieur à zéro, c'est-à-dire il est négatif. Donc, il y a plus de glaces qui fond que de glaces qui s'accumulent. Donc, on est en perte de volume de glace en Antarctique. En Antarctique de l'Ouest, en Antarctique de l'Est, non. On a un volume à peu près stable, quelque chose qui reste. Et juste pour comparaison, vous voyez qu'au contraire, au Groenland, on est vraiment dans quelque chose d'une diminution très rapide de la calotte. Ça vient du fait que cette calotte, elle est beaucoup plus petite, un dixième plus petite. Donc, elle a moins de... Comment dire de quand on réagit doucement. La moins d'inertie. Voilà, la moins d'inertie que la calotte antarctique. Bien. Alors, cette fonte, hein, puisque donc c'est de l'eau solide qui se met à être liquide, elle se fait par la surface. Donc, on a vu que les températures de surface étaient plus fortes. Donc, il y a une ablation en surface de la calotte. Un déversement également de la calotte au niveau de l'océan de plus en plus important, des flux, hein, des flux de glace qui accélèrent, des vitesses qui augmentent. Quelques jolies images de ces icebergs. Donc, les icebergs, c'est de la glace continentale, c'est de la glace qui vient des précipitations neigeuses. Encore une fois, ne pas confondre du tout avec la banquise, hein, qui vient de l'eau de mer. Voilà, donc des détachements, etc. Et puis, la fonte de cette calotte aussi, sur le pourtour, hein, au niveau de sa jonction avec l'océan, elle est accélérée au niveau des côtes par en dessous. Il y a de la fonte qui se fait au niveau du contact socle-glace. Alors, le problème en Antarctique, c'est qu'il y a des calottes qui sont instables. Ces calottes, elles sont sur l'océan. On appelle ça une calotte marine. Vous avez ici donc la carte de l'Antarctique avec les zones d'écoulement de la glace et donc des vitesses qui sont différentes. Les couleurs chaudes marquent donc des vitesses grandes, de l'ordre de kilomètres par an. Et puis, donc vert, on est dans quelque chose de l'ordre de la centaine de mètres par an. Les zones d'écoulement très grandes, ce sont donc dans ces deux grandes mers. Donc là, on est au-dessus, en partie au-dessus du continent. Hein. Ce sont des glaciers exutoires. Et vous voyez ici deux petites zones où justement la glace de la calotte, elle va passer, en partie comme ici aussi, au-dessus de l'eau de mer. Le problème, c'est que ces grandes plateformes, elles jouent ce qu'on appelle un rôle d'arc-boutant, c'est-à-dire une espèce de résistance au déversement de la glace. Et dans ces zones de Pine Island ou de Thwaites, vous voyez ici, donc le Pine Island, on a ici le tracé de la côte, et vous voyez que la glace, elle va par-dessus. Donc on a vraiment de la glace, donc plusieurs centaines de mètres, hein, c'est pas de la banquise encore une fois, hein, là on est à plusieurs centaines de mètres, qui passe au-dessus de l'océan, et qui après donc, va donner lieu à des icebergs, bien entendu. Mais l'écoulement de cet endroit-là devient de plus en plus accéléré, de la même façon que le glacier de Thwaites ici. Le problème, c'est que derrière, on a des très grands glaciers. C'est-à-dire, globalement, c'est l'Antarctique de l'Ouest, la calotte de l'Antarctique de l'Ouest, hein, qui est derrière ces deux exutoires. Or, voilà ce que font ces endroits de plateforme. Elles jouent un rôle d'arc-boutant, un petit peu à la manière des cathédrales. Hein. Elles maintiennent la construction, en tout cas, elles la freinent. Et si vous n'avez pas ces structures-là, ça part. Ça part très vite. Ça part beaucoup plus vite que s'ils sont là et qu'ils ralentissent le flux de glace. Alors, on a vu que donc, dans ces zones de l'ouest, donc, il y a des vitesses qui deviennent de plus en plus grandes pour ces exutoires, ces arcs-boutants. Donc la glace a l'air de partir de plus en plus vite. Qu'en est-il de leur stabilité ? Gros problème, cette calotte de l'ouest, en Antarctique, elle repose sur un socle qui est en dessous du niveau marin. Vous voyez ici, on a des couleurs bleues. Donc ici, on a de la glace hein, dessus. Hein. Mais on est en dessous du niveau marin. Bon, c'est pas trop illogique. Hein. Une calotte, ça pèse lourd, donc le socle, il s'affaisse. Donc dans cette zone-là, c'est le cas. Or, le problème, c'est que si ces arcs-boutants commencent à s'effondrer, à se casser, donc à diminuer en longueur, l'eau de mer va pénétrer par en dessous de la calotte, en tout cas à l'interface continent-calotte, et s'infiltrer. Mais si vous avez une pente inverse, le processus va s'accélérer. Et là, dès lors que ça commence à se rétracter, les scientifiques ont peur que ça s'emballe. C'est-à-dire qu'en gros, si ces arcs-boutants qui ont l'air tout petits sur la carte commencent à s'enlever, à céder, ils ont peur que ce soit tout le reste de la calotte qui, peu ou prou, en tout cas assez rapidement, lâche. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a des calottes qui se retrouvent dans l'océan ? Donc ça fond, c'est les icebergs qui sont relâchés, ça fond, et du coup, le niveau marin augmente. Rappelez-vous que si tout fond, on a 58 mètres de hauteur supplémentaire. La tour de la Pardieu, elle fait 140. C'est la tour oxygène, non ? C'est la tour de la Pardieu, 140. Bon, très bien. Donc la moitié, quasiment, un petit peu moins de la moitié. Alors, le problème, c'est que ça se voit déjà dans certaines zones. Alors, pas celle de l'Antarctique de l'Ouest. Alors, on a quand même des signes, hein. Je vous ai dit, la vitesse accélère. Mais il y a d'autres endroits où les arcs-boutants commencent à se détacher. Et notamment, c'est le cas le long de cette péninsule, péninsule ouest, où on a donc une zone d'arc-boutants. Et ici, on a le Larsen A qui a lâché en janvier 2015, le Larsen B en février 2002 et le Larsen C qui a lâché en 2017. Donc le Larsen C, c'est 50 000 km², 350 mètres d'épaisseur de glace. Donc c'est à peu près le département du Gard qui s'est retrouvé dans l'océan. Et voilà, quand un Larsen lâche, voilà l'endroit où la fissure se développe et où le bloc se détache complètement. Donc encore une fois, ce n'est pas le fait que ça parte, c'est que ça préfigure un emballement de la déstabilisation de la calotte qui est derrière. Et c'est pour ça que dans les prévisions par rapport à l'océan marin, et je vais terminer là-dessus, le niveau marin, globalement sur Terre, on sait qu'il augmente. Donc si on a un zéro ici, qui est mis pour l'année 1900, les reconstitutions, puis les mesures satellitales, nous montrent que le niveau marin ne cesse d'augmenter. 0,6 mm par an entre 1900 et 1930, 1,4 mm par an entre 1930-1990 et depuis environ 3,3 mm par an. Donc une courbe qui se redresse, c'est-à-dire une vitesse qui augmente. On a gagné environ une vingtaine de centimètres en à peu près un siècle. Ça, on le relie. Alors, je vais vous dire à quoi on le relie, mais avant ça, voilà les différentes contributions par rapport à ce niveau marin qui augmente. Eh bien, c'est environ pour moitié, enfin 30-40% dû à la dilatation thermique, c'est-à-dire le fait qu'il fait plus chaud. Donc, pour les liquides ou pour les gaz, quand il fait plus chaud, il y a plus d'agitation thermique et du coup, le volume est plus grand. Donc, si on monte en volume, alors que la surface reste la même, on monte en altitude, c'est-à-dire en niveau marin. Et puis le reste, c'est la fonte des glaces. Et parmi ces glaces, c'est surtout les glaciers, à l'heure actuelle, même s'ils ne représentent pas beaucoup un volume important, finalement, relativement à l'Antarctique sur Terre. Ils sont petits, donc ils sont extrêmement réactifs, et ce sont eux qui partent beaucoup, de façon massive. Et l'Antarctique a commencé à bouger, comme je l'ai dit, elle a commencé à fondre, mais depuis les années 2000, pas avant. Donc vous voyez sur ce diagramme-là, les années 2000, c'est là. D'accord ? Le truc, c'est que quand elle commence à fondre, eh bien donc, il va falloir des centaines, voire des milliers d'années avant d'arrêter sa fonte. Et c'est pour ça que le niveau marin, il va continuer, quoi qu'il arrive, à s'élever, même si les émissions anthropiques sont stoppées aujourd'hui. Pour les prévisions futures, eh bien donc, que de questions, notamment donc, les prévisions, les faits, alors ce n'est pas des prévisions, pardon, c'est des projections, là, je devrais changer le terme, on les fait à l'horizon 2100, au plus loin. On a plusieurs scénarios, donc ici ce sont des scénarios d'augmentation de la chaleur à la surface du globe, donc 2,6 watts par mètre carré et 8,5 watts par mètre carré. Actuellement, on est sur ce scénario en termes d'émissions de gaz à effet de serre depuis 10 ans. On est vraiment sur la courbe haute, on n'est pas du tout dans le 2,6. Ce scénario-là nous mène vers un réchauffement de plus 5 degrés en moyenne à l'horizon 2100 par rapport à l'époque pré-industrielle, 1850, alors que le 2,6 nous mènerait à 2 degrés supplémentaires, ce vers quoi on souhaiterait tendre. Au niveau du marin, eh bien vous voyez qu'on a des prévisions qui sont de 40 cm à l'horizon 2100 pour le 4,5 et 1 mètre pour le 8,5. Mais dans ces scénarios ne sont pas inclus les déstabilisations de la calotte antarctique et groenlandaise aussi. J'en ai pas parlé, mais Groenland pose le même genre de questions. Et donc, il est dit que justement, il y a une grande incertitude par rapport à cette courbe-là, qui n'apparaît même pas dans l'enveloppe rose ici, mais il pourrait très bien y avoir plus de mètres d'un seul coup à la fin de notre siècle, si jamais il y avait une déstabilisation de l'Antarctique. Voilà. Alors, il faut bien comprendre qu'effectivement, par rapport à la perturbation qui est due à une augmentation de CO2 atmosphérique de l'ordre de quelques centaines d'années ici, hein, depuis la période pré-industrielle, eh bien, il y a plusieurs choses qui réagissent, vous voyez, sur des temps différents. La stabilisation du CO2 va prendre plusieurs centaines d'années. Donc, même si on arrête à l'heure actuelle, il y aura du CO2 qui restera pendant plusieurs centaines d'années dans l'atmosphère avant de repartir dans d'autres enveloppes terrestres. La stabilisation de la température, elle prend encore plus de temps. Et puis, par contre, ce qui prend le plus de temps à se stabiliser après la perturbation, c'est-à-dire des siècles et des millénaires, eh bien, donc c'est le niveau marin à cause de la dilatation, mais surtout aussi des calottes polaires, là, ce qui n'apparaît pas tout à fait là-dessus. Voilà, eh bien, écoutez, on n'a pas parlé de tout, mais je vous remercie de votre attention et je vais vous poser une petite question. Je ne vais pas y répondre. Est-ce que vous connaissez un lac qui est en pente sur Terre ? Eh bien, ça existe. Ça existe et c'est sous Vostok. Il y a un lac qui est à peu près plusieurs centaines de mètres de dénivelé entre un bout et l'autre. Voilà. Et puis, je vous laisse également sur cette image d'un phénomène tout à fait particulier observé en Antarctique qui s'appelle le Yukimaru. Voilà. Merci.